J'ai rencontré Yakuta Ali Kavazovitch lundi 6 février 2023 au CDI du lycée Estournel de Constant à La Flèche dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire organisé par Bernard et Brigitte Martin. Deuxième partie de la rencontre avec Yakuta Ali Kavazovitch, l'autrice de Comme un ciel en nous qui raconte une nuit au musée du Louvre.
Et en parlant de fiction, est-ce que vous pensez avoir fait de la fiction ou vraiment un essai comme indiqué
Comme indiqué où ça?
Sur le livre, c'est pas indiqué que c'était...
Non.
Ah non, parce que vous avez gagné le prix de l'essai Médicis, mais c'est en dehors.
Alors ça, c'est une chose qui me... Oui, ça c'est vraiment la preuve, cette histoire de genre, que le livre est achevé par ses lecteurs. Et que c'est les lecteurs, les lectrices et les lecteurs qui, finalement, ont le dernier mot. Et c'est très drôle, les réactions, elles sont très drôles. Moi, j'ai fait très attention en écrivant ce livre à ce qu'il y ait pas de marqueur dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que les gens qui aiment lire des romans le lisent comme un roman, les gens qui aiment lire des essais le lisent comme des essais, les gens qui aiment les histoires où tout est vrai le lisent comme quelque chose où tout est vrai, et les gens qui aiment les histoires où tout est faux le lisent comme une histoire où tout est faux. Et c'est extraordinairement varié en fonction des lectrices, des lecteurs, de leur goût, de leurs envies. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Ah, j'ai adoré votre livre, c'était super, mais... Ah, qu'est-ce que c'était bien. Mais vous n'avez pas vraiment dormi au Louvre. C'est inventé, tout ça. » Alors, je leur dis « Si, si. » Alors, ils me regardent comme si c'était plus le même livre qu'ils avaient entre les mains. Et y en a d'autres qui sont plus touchés, disons, par l'histoire du père, du rapport au père, qui ressort, disons, d'une forme de roman autobiographique. Il y en a d'autres qui me parlent beaucoup des développements sur l'art, sur la place que l'art a dans nos vies, donc qui le ferait pencher effectivement plus du côté de l'essai. Et puis, il y a des lecteurs qui sont peut-être mes lecteurs préférés à moi. C'est les lecteurs qui le lisent comme un roman policier et qui cherchent ensuite des indices et dans le livre et dans la vie de ce qui a bien pu se passer. Voilà, ça c'est le genre de lecture qui me tient très à cœur, moi.
Est-ce que la petite fille voyait que son père était bizarre avec ces questions-là qu'il y a dès le départ sur combien d'extincteurs?
Non, la petite fille avait surtout... c'était un émerveillement constant, c'est-à-dire que ça a été... mon père est un homme exceptionnel et un père exceptionnel. Et pour la fillette que j'étais... C'était normal d'avoir un père exceptionnel. Ça, c'est un grand cadeau que la vie m'a fait. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'ai mis très longtemps à me rendre compte que tous les pères n'étaient pas extraordinaires comme le mien. Que la plupart étaient parfois même ennuyeux ou occupés ou distants, ou je ne sais pas. Non, et ce n'était pas mon père qui était un drôle de père. C'était cette question qui était une drôle de question. Et ça, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que cette question-là, qui était le fil directeur, qui était le fil, et vous l'avez très bien lu, tous ceux d'entre vous qui ont lu les premières pages, comment tu t'y prendrais pour voler la Joconde? Quand l'idée, c'est de voler la Joconde, on ne voit plus les choses, les espaces, les œuvres de la même manière. Et c'était des aventures extraordinaires que j'ai vécues avec mon père. Ensuite, l'adulte que je suis devenue, un jour, s'est dit, mais... Cette question-là, c'était un fabuleux terrain de jeu, c'était un fabuleux terrain de complicité entre nous, mais est-ce que ça n'était que ça? Et c'est à partir de ce questionnement d'adulte que j'ai relu certains de ces souvenirs et que j'ai, disons, moi-même enquêté, puisque c'est quand même de ça qu'il est question, sur tout un pan de la personnalité et de la vie de mon père qui m'échappait totalement dans l'enfance.
Donc c'était un jeu.
Ah bien sûr, bah bien sûr. Puis c'était présenté comme tel,
c'était pas une vraie question.
C'était une vraie question, mais rien n'est plus vrai que le jeu pour les enfants. Et certaines personnes, comme mon père.
Alors pourquoi vous pensez qu'on pourrait pouvoir voler un tableau?
pourquoi on pourrait vouloir voler un tableau? Mais pourquoi veut-on voler un tableau? Vous avez jamais eu envie de rien voler? Un tableau ou autre chose? Si, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, vous vous promenez sur la plage ou vous vous promenez en montagne et puis vous trouvez que c'est tellement beau, vous êtes là tellement bien et vous vous penchez et vous ramassez un galet? Ou alors vous vous penchez, vous prenez un coquillage? Ou alors vous vous penchez, vous cueillez une fleur et vous l'emmenez avec vous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ça dans l'envie de prendre quelque chose qu'on trouve beau ou qui nous évoque un endroit beau ou qui nous évoque un moment beau et de le ramener chez soi? Est-ce que ce n'est pas la chose la plus naturelle qui soit? Est-ce que c'est pas... Moi, mon fils, il est petit. Quand il voit quelque chose qui lui plaît, qu'il questionne, qu'il attire, son premier réflexe, c'est d'aller toucher. Et c'est ça, c'est au contraire. C'est pas la question, c'est pas pourquoi voler un tableau, c'est plutôt pourquoi ne pas voler un tableau. Ou toute autre chose. Alors, pour développer, il y a des questions. La réponse qui m'intéresse le moins, c'est celle qui est mue par l'appât du gain. C'est la plupart des vols d'art, c'est souvent des commanditaires qui sont des gens extrêmement aisés, qui veulent pour une raison ou pour une autre, mais c'est des raisons qui sont intéressantes, qui veulent avoir, posséder quelque chose qui appartient, disons, à tout le monde, ou qui appartient au regard de tous, et qui souhaitent l'enfermer. Alors déjà, ça, quand on y pense psychologiquement, c'est très intéressant. Pourquoi la Joconde serait plus à vous quand elle est dans votre sous-sol que quand elle est au Louvre? Bon, il y a une réponse évidente, mais pensez-y, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et puis, il y a plein d'autres raisons. Il y a des gens qui peuvent pas s'en empêcher. Il y a des vols de tableaux, moi ça m'a passionné comme question. Alors, il y a des vols, il y a des choses qui sont extraordinaires. C'est pas des tableaux, mais c'est des photos qui ont été volées à New York il y a quelques années, pas très longtemps. Deux photos qui ont été volées. Alors bon, ben voilà, il y a deux photos qui sont volées. Puis au bout de quelques semaines, une enveloppe arrive au musée et puis il y a les photos dedans. La personne qui les a volées les a rendues. Donc qu'est-ce que c'est, comme un prêt, comme une bibliothèque de photos? Je les ai eues chez moi, j'ai vécu, je les ai côtoyées pendant 6 semaines. C'est bien, je les connais bien maintenant, ben voilà, je vous les rends. Voilà. Donc non, la question serait plutôt pourquoi ne pas, en tout cas, ce qui me concerne.
Et est-ce que vous avez déjà essayé de toucher une des statues ou une des œuvres?
Ah, mais je n'ai pas essayé, oui, bien sûr, ça c'est l'une des prérogatives. Et je salue, comme je fais toujours, je salue vraiment l'élégance du Louvre. Ça n'a pas été facile d'obtenir les autorisations, mais une fois qu'elles ont été là, on m'a donné les clés d'une certaine façon. Oui, j'ai touché les statues, j'ai embrassé l'œil d'un lion, je leur ai mis mes vêtements, enfin je veux dire, j'étais comme chez moi.
C'était autorisé ou...
Je ne sais pas. Disons que l'avantage de la question qu'on abordait tout à l'heure sur la question du genre, c'est que le roman autorise tout, puisque c'est de la fiction. Donc, cachons-nous derrière le roman.
Qu'est-ce que ça fait d'être dans un endroit qui n'est normalement jamais vide et de là y être alors que c'est un endroit qui est fait pour être rempli?
Ça procure vraiment... c'est un type d'émotion forte que j'aime beaucoup, moi. Et j'ai vraiment l'impression d'être privilégiée dans ces moments-là. Là, c'est un privilège. C'est un privilège qui vient avec sa part de frissons, disons, parce que c'est des lieux qui sont très imposants et encore plus, évidemment, une fois qu'ils sont vides. On se sent vraiment toute petite au Louvre et assez facilement perdue, surtout quand on a un sens de l'orientation pas terrible comme le mien. On se sent toute petite. Mais alors ça, c'est vraiment... Il y a à la fois le frisson de la transgression, l'idée qu'on est quelque part où on n'a pas le droit d'être, en fait, au fond, l'impression de vivre un moment privilégié. Là, j'étais contente parce que j'y étais... c'était l'écriture qui me permettait ça. Donc, j'avais le droit d'y être. J'avais une espèce de sauf-conduit. Une exception avait été faite pour moi grâce à l'écriture. Et ça, j'en étais très heureuse aussi. Mais je dois dire aussi que pendant une partie de ma jeunesse, j'ai joué à me laisser enfermer dans des lieux après la fermeture. Parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Mais j'ai un goût pour ça d'assez longue date, disons.
Parce qu'il y a quand même une histoire de reconnaissance aussi, d'appartenir à un pays. Et là, c'est le pays qui vient vous demander d'écrire sur le loup.
Le pays, j'aimerais vous dire que j'ai écrit pour la France, mais enfin...
Non, mais enfin, en tout cas...
C'est un rapport à la langue, surtout. Plus que de... C'est un rapport à la langue et j'ai un rapport... Tout à fait, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais j'ai un rapport particulier au français. Je suis née en France. J'ai parlé français tôt. Enfin, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à mes études, du moins, en France. Et pourtant, ce n'est pas ma langue maternelle. Ce n'est pas la langue que j'ai parlé chez moi, avec ceux qui sont les plus proches pour un enfant, c'est-à-dire les parents. Enfin, cette partie-là de la famille. Et donc, c'est comme si le français, c'était une langue qui n'était qu'à moi et qui était la langue de l'écriture, à la fois la langue de ce qu'il y a de plus social, l'éducation, et ce qu'il y a de plus personnel, au contraire, l'écriture. Et ça, c'est à moi. Donc, je sais pas, moins un rapport à la France qu'au français, ouais. Mais je le dis parce qu'on se rend compte au fil du temps... que d'avoir une double culture ou un aperçu de ce que c'est qu'une double culture, une double langue, parfois même davantage, puisque ensuite il y a eu l'anglais, enfin qui est une langue que j'ai apprise plus tard, mais que j'ai vraiment voulu apprendre. Ça a été une décision et un choix, et c'est une langue dans laquelle j'ai vécu une longue partie de ma vie. On se rend compte que cette histoire de double culture, de double langue, ça crée quand même une communauté de regard sur les choses. Avec les gens, les choses ne sont pas toujours comme elles le croient. Voilà, et un petit peu de décalage, un petit peu de déracinement par rapport à l'origine, qu'elle soit géographique ou linguistique, je pense, selon moi, c'est toujours une bonne chose. Ça a élargi le champ comme ça.
Comment est-ce que vous auriez pu expliquer à quelqu'un qui ne considère pas ça comme un privilège, que ce n'était pas une punition, vous étiez soumise à toute l'histoire du Louvre? Comment vous pourriez convaincre quelqu'un?
Alors, il y a quelque chose qui se passe quand on... C'est peut-être même l'une des marques du devenir adulte, c'est qu'on n'essaye plus de convaincre qui que ce soit. Les gens vivent leur vie et on les laisse faire. Donc non, je convaincrai personne. J'aimerais pas convaincre quelqu'un. Je pense que chacun est responsable de son degré de curiosité et de savoir vivre. Voilà. Donc non. En revanche, si jamais vous hésitez en vous demandant est-ce que c'est une bonne idée, oui, je vous y encourage.
En étant au Louvre, vous avez pu redécouvrir les statues sous diverses cultures. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement choquée ou particulièrement surprise?
Il y en a une, alors, qui m'ont choquée ou surprise, oui et non. Il y en a une avec laquelle j'ai une histoire un peu particulière, parce que c'est une sculpture que j'ai remarquée à contre-temps. C'est-à-dire qu'en fait, sur le coup, sur place, je l'ai vue, je l'ai remarquée, je l'ai enregistrée, mais elle ne m'a pas fait plus impression que ça. Et en fait, c'est dans le décalage qu'il y a eu. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Un problème n'est pas forcément un blocage. Ou un blocage n'est pas forcément un problème, pour revenir à votre première question. Parce qu'en fait, la mémoire aussi choisit. Et on ne sait pas ce qu'elle va choisir. Quand on n'a pas ce temps comme ça, il y a eu quelques mois entre la nuit et le moment où j'ai écrit. Et dans ces quelques mois, il y a une sculpture qui ne m'avait pas fait plus grande impression que ça, qui m'a travaillé, vraiment, qui me... Et c'est une sculpture. En plus, on la remarque moins parce qu'elle est plus basse que les autres. C'est souvent des grandes statues de gens debout, de femmes ou d'hommes debout. Celle-là, c'est une femme assise, comme ça, enfin accroupie. C'est une Vénus au bain. Et donc, elle a juste le geste, comme ça, de prendre de l'eau dans une rivière, dans une source. et de se laver la figure, enfin peu importe. Et en fait, ce que j'ai remarqué, mais qui est resté comme une espèce de souvenir ensuite qui m'a vraiment travaillé, je ne vois pas d'autre mot parce que ça travaille, c'est que cette Vénus au bain, sur son dos, il y a la trace d'une autre présence. Parce qu'il y a une toute petite main d'enfant posée sur le dos de Vénus. En fait, c'est un ensemble de sculptures. Vénus était avec son fils, le petit Cupidon, vous savez, celui qui tire les flèches, qui fait tomber amoureux. Donc Vénus est la mère d'amour. Et dans la longue vie de cette statue, ils ont été séparés. Amour a été cassé, a été perdu. Et il reste juste la main, une petite main sur le dos de sa mère. Et je l'ai enregistré comme ça, au fil de mes déambulations. Et ensuite, au fur et à mesure que j'y pensais, ça me semblait exprimer accidentellement, puisque c'est un accident de l'histoire, c'est quelque chose qui a été cassé, qui a été endommagé, qui a été perdu. Mais ça me semblait exprimer très bien, finalement, le rapport qu'un parent peut avoir à un enfant ou qu'un enfant peut avoir à son parent. Il y a une question de présence comme ça, fantôme, de proximité, même dans l'absence. Et moi, c'est ce que j'ai éprouvé à titre personnel ce soir-là. Mon fils était tout petit et évidemment, je pensais à lui même quand je n'étais pas à la maison avec lui. Et j'étais en train d'écrire sur mon père et je me disais, mais est-ce que c'est comme ça finalement que mon père pensait à moi ? Est-ce que j'ai été cette présence à un moment donné pour mon père ? Et je pense que oui. Et donc voilà, donc c'est cette statue-là qui m'a sur le coup pas particulièrement frappée et qui s'est imposée au fil du temps.
Dans quel contexte psychologique vous avez écrit le livre après ? Qu'est-ce qui a changé chez vous mentalement par rapport à l'idée que vous aviez de l'écrire en sortant du livre ?
Alors, c'est le seul de mes livres que j'ai écrit vite, très vite. Il y a eu un moment, j'y croyais pas forcément avant, je me disais, mais c'est mes confrères et mes consoeurs qui... C'est un mythe de l'écriture, comme ça, les livres qui vous arrivent. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec celui-là. Je l'ai écrit sans difficulté, sans peine. Et à vrai dire, je l'ai écrit... C'est mon conjoint qui m'a dit ça. Il m'a dit, c'est étonnant parce qu'on a été confinés. Toute cette période, on était confinés. Donc, je travaillais à la maison, tu travaillais à la maison... notre fils était à la maison. Je ne sais pas quand tu as écrit ce livre. Je ne t'ai pas vu l'écrire. Donc, le livre s'est écrit. Voilà. Alors, ça doit être une condition psychologique particulière, mais elle était très agréable. Est-ce que j'ai apprécié cette expérience ? La nuit au Louvre ou l'écriture du livre ? Oui, j'ai apprécié cette expérience. Sur le coup, il y a eu plus d'une fois où je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais là ? Il a fait très froid. Il a fallu que je traverse la moitié du Louvre avec ma brosse à dents à la main pour aller me laver les dents. Je me souviens de moments quand même où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Comment, qu'est-ce qui se passe ? Ou les moments où vous entendez un grincement là, très loin. Enfin, je n'étais pas entièrement rassurée. Je ne sais pas si je le referais, mais l'avantage de cette expérience-là, c'est que... Sa valeur, elle vient du fait que c'est une expérience exceptionnelle, donc personne ne va me demander de le refaire. Et tant mieux, je suppose. Voilà. Donc oui, j'en garde un bon souvenir. Je garde surtout je suis surtout contente du livre qui en est sorti. Et ça, c'est deux choses différentes quand même. L'expérience, bon, c'est une chose. Je suis contente du livre.
Nous aussi, lecteurs, nous sommes très heureux d'avoir lu Comme un ciel en nous et de partager l'envie de vous lire. Avec d'autres. C'était la deuxième partie de la rencontre avec Yakuta Alikavazovic dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire.